affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, merci de votre fidélité. Cinq siècles après sa mort tragique, Jeanne d'Arc continue d'enflammer l'imaginaire français, de stimuler l'imagination, de susciter des passions et des débats savants. Est-elle à l'origine de l'émergence d'un sentiment national français ? A-t-elle été une stratège militaire hors pair ? Était-elle une sainte, une prophétesse, une sorcière ou plus prosaïquement, un instrument de propagande au service du roi ? Pour répondre à ces questions, il y a bien d'autres, pour tordre le cou aux légendes farfelues nées à son sujet de nos jours, la meilleure façon de procéder consiste peut-être à la réinscrire dans son temps, à se plonger dans le XVe siècle français, à mieux saisir l'esprit du temps et à comprendre les mutations profondes alors à l'œuvre dans cette période apparaissant comme une sorte de trait d'union entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. C'est ce que nous allons faire en compagnie de Philippe Contamine, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, qui vient de publier un ouvrage titré justement « Jeanne d'Arc et son époque, essai sur le XVe siècle français ». Ma première question porte sur ce rapport que vous avez avec Jeanne d'Arc qui a occupé une grande part de vos travaux. Comment expliquer cette passion pour Jeanne d'Arc ?
Une grande part, mais pas la totalité. Je ne suis pas uniquement spécialiste du sujet de Jeanne d'Arc. Donc je dirais que je me suis intéressé à Jeanne d'Arc assez tard. Et il se trouve que ma thèse de doctorat Ès-Lettres, qui est déjà publié il y a assez longtemps, travaillait et traitait des armées des rois de France au XIVe, XVe siècle. Donc inévitablement, je rencontrais Jeanne d'Arc. Mais le sujet paraissait si considérable et déjà si bien traité, que j'en suis tenu un petit peu à l'écart. Et alors, donc, c'est simplement aux alentours des années 1970-80, il y a déjà pas mal d'années, que je me suis vraiment plongé dans cette histoire absolument fascinante. Et il y a par la suite eh bien, un certain nombre de développements, et peut-être qu'il y aura même encore d'autres développements. Donc, au point de départ, je me suis intéressé à trois choses. Premièrement, lors du siège d'Orléans de 1429, c'est la grande fée d'armes de Jeanne d'Arc, puisque Orléans était assiégé par les Anglais depuis plusieurs mois et menacé d'être pris d'assaut par l'armée anglaise au printemps 1429. Et donc je me suis intéressé à la question de savoir quelles étaient les forces en présence. Et je me suis aperçu finalement qu'en regardant de près, il n'y avait pas tellement de déséquilibre entre l'armée anglaise et l'armée, entre guillemets, française. En réalité, assez cosmopolite, il faut bien le dire. Même si, du point de vue de l'organisation, du point de vue du financement, les Anglais avaient largement une longueur d'avance. Mais malgré tout, toute façon, à cette époque de la guerre du XVe siècle, assiéger une place, c'est toujours difficile. Et finalement, l'avantage est plutôt au défenseur qu'à l'attaquant. Donc, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, je me suis posé la question, et ensuite je suis revenu, du reste, voir Jeanne d'Arc d'un autre point de vue. Et en particulier, quelles étaient les réactions des princes de la Maison de France, Bourgogne, Bourbon, Bretagne, etc., vis-à-vis du phénomène Jeanne d'Arc à l'époque même. Parce que Jeanne d'Arc, tout de suite, a fait débat. Il faut bien dire, tout de suite, a fait débat. Donc ça, c'était le deuxième élément. Et puis le troisième élément, je me suis posé la question de savoir, mais après tout, nous sommes un régime de chrétienté, il y a une théologie morale, et en particulier la théologie de la guerre juste, qui est très ancienne, puisque ça remonte à saint Ambroise, puisque ça remonte à saint Augustin, et même auparavant à Cicéron. Et donc, à partir de ce moment-là, la question s'est posée. La guerre de Cent Ans a-t-elle été, pour les contemporains, j'entends bien, une guerre juste? Et c'est un petit peu comme ça le point de départ, parce qu'il se trouve qu'il y a eu un colloque en 1979 où j'ai traité de ce sujet, et donc le maire d'Orléans de l'époque a été sans doute frappé par mon questionnement, ainsi que Régine Pernoud, la grande spécialiste de Jeanne d'Arc entre 1960 et 1980. Et donc l'un et l'autre m'ont demandé de prendre la tête, je l'ai fait pendant quelques années, du centre Jeanne d'Arc d'Orléans, qui est un centre de documentation, de recherche, de sensibilité à ce vaste sujet. Donc ça, c'est le point de départ. Et puis à partir de cela, eh bien, je n'ai pas arrêté de noircir des pages, si je puis dire, y compris Jeanne d'Arc Histoire Dictionnaire, que j'ai réalisé il y a quelques années en collaboration avec Olivier Bouzy et Xavier Hilary.
Oui, parce qu'on le sent à travers ce livre-ci, hein, dont je rappelle le titre Jeanne d'Arc et son époque, publié aux éditions du Cerf, je le précise parce que je ne l'avais pas dit tout à l'heure, que vous avez une forte intimité presque avec Jeanne d'Arc. C'est-à-dire qu'au départ, c'est l'histoire militaire, c'est la chef de guerre, mais petit à petit, en tirant sur le fil, sous votre plume, c'est une Jeanne d'Arc beaucoup plus incarnée que l'on découvre.
Incarnée et puis finalement une figure à la fois d'héroïsme et une figure de sainteté. Je crois qu'il y a effectivement, bon, on peut toujours en discuter naturellement, bon, la canonisation, c'est le centenaire. Hein, c'est le centenaire de la canonisation 1920-2020, n'est-ce pas? Bon, et donc, alors, qu'est-ce que ça signifie être saint à son époque, être au XXe siècle, au XXIe siècle, je n'en sais rien. Mais enfin, pour moi, je dirais que c'est une figure de sainteté. Et d'autant plus une figure de sainteté que finalement, elle est morte dans l'interrogation. J'en suis convaincu. Elle est morte dans l'interrogation, n'est-ce pas? Bon. Mais après tout, le Christ en croix est mort aussi dans l'interrogation. Pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, je pense que ce sentiment de Jeanne d'Arc, au moment où elle est sur le bûcher, elle s'est posé la question.
Mais semble-t-il, elle pouvait aussi se poser les questions au départ, car elle entend des voix pendant de longues années avant de se décider.
Ça n'est pas commode d'entendre des voix, et ça n'est pas commode non plus pour nous, au XXIe siècle, il faut reconnaître, dans un monde désenchanté, de comprendre comment ces voix répétées, tangibles, matérielles, premièrement, qu'est-ce que c'est ces voix, c'est ces visions, hein, qu'est-ce que c'est? Et deuxièmement, comment ces voix se sont mêlées d'affaires qu'on peut dire politiques, temporelles, hein? Et je pense qu'à l'époque même, les contemporains se sont posé la question. Et notamment, les juges de Rouen, et dans le livre auquel vous faites allusion, il y a un développement sur Saint-Michel au ciel de Jeanne d'Arc, où j'essaie de montrer la façon dont les juges de Rouen, Pierre Cochon et les autres, ont quand même été dérangés, interloqués, par la façon dont elle envisageait ce rapport avec l'au-delà à travers les anges Saint-Michel, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite.
Mais que ses adversaires soient dubitatifs ou choqués, on le comprend très bien. Mais à travers les textes, on comprend que ses alliés ou ceux qu'elle voulait soutenir n'étaient pas moins dubitatifs. Et de fait, s'ils avaient déjà été en contact avec des gens qui entendaient des voix ou avec des prophéties, celle-ci, effectivement, avait un caractère éminemment politique. Voilà. Et c'est cela qui est très frappant au sujet de Jeanne d'Arc et qu'on ressent dans le livre. C'est qu'elle participe quand même de la genèse d'un sentiment national et d'une solution politique à une crise, celle de la guerre de Cent Ans, bien sûr.
Bien sûr. Alors, effectivement, cette guerre de Cent Ans, donc, je me suis un petit peu interrogé sur l'expression. L'expression même « guerre de Cent Ans », qui apparaît au début du XIXe siècle, et puis qui se répand un petit peu dans toutes les langues. Donc c'est une expression pédagogique. Hein. C'est assez facile à repérer. 1337-1453, la guerre de Cent Ans. Ça se dit un peu dans toutes les langues. Mais je pense qu'à l'époque même, premièrement, il y a eu une seule et même querelle. Une seule et même querelle, à savoir qu'il y avait deux dynasties. Une dynastie anglaise, une dynastie française, qui se disputaient le trône de France à une époque où les guerres dynastiques étaient très fréquentes, Mais en même temps, c'est beaucoup plus qu'une guerre dynastique, et que c'est une guerre de deux royaumes, et peut-être même, surtout du côté français, une guerre de deux peuples. Donc la guerre de Cent Ans, c'est un seul et même débat, et Jeanne d'Arc s'insère dans ce débat, qui repartit en 1420 avec le fameux traité de Troyes, qui a prétendu sortir de ce conflit par le haut. Après tout, pourquoi pas, il peut y avoir un seul roi pour deux royaumes. Hein, et donc un roi qui serait évidemment anglais, mais qui serait français en France, anglais en Angleterre. Et donc Jeanne d'Arc s'oppose à cette vision. Elle considère que ça n'est pas possible et qu'il faut que la France garde son identité, risquons le mot, et son autonomie, je dirais également sa souveraineté. Alors donc, pour en revenir à la guerre de Cent Ans, non seulement c'est une seule et même querelle diplomatique, cette querelle sur la couronne de France, à qui doit-elle revenir? Et deuxièmement, c'est en même temps un ressenti. Je pense que surtout en France, les gens ont compris que c'était, ont vécu cela comme un seul et même conflit. Il y a des tas de textes de la fin du XIVe siècle qui disent « Ah ben, il y a déjà deux générations que ça dure ». Et ensuite, au XVe, quand la guerre a repris, après 1415, eh bien, c'est un siècle. On arrive à... Donc, on ne trouve pas l'expression « guerre de cent ans », mais on trouve l'expression « cent ans de guerre ». Il y a un côté vécu qui m'a frappé. Donc, je pense que cette expression « guerre de cent ans » est légitime, elle est éclairante, surtout du côté français.
Et donc, elle sera le moment d'une matérialisation ou d'un passage d'une époque où les guerres peuvent être provoquées par des querelles dynastiques à une autre époque où les guerres deviennent nationales, patriotiques,
absolument, mais je dirais que ce n'est pas un passage définitif, puisque sous l'Ancien Régime, il y a encore quantité de guerres dynastiques. Mais justement, cette guerre de Cent Ans, on peut dire que c'est plus qu'un conflit dynastique. Donc il y a une comparaison, parce que j'en parle un petit peu, des guerres d'Italie. Une comparaison entre guerre de Cent Ans et guerre d'Italie plaide pour la modernité, de notre point de vue, de la guerre de Cent Ans. La guerre d'Italie, c'est finalement des guerres de magnificence, où il y a un roi ou des rois qui souhaitent mettre la main sur la péninsule italienne, ou tel secteur de la péninsule italienne, et puis qui sont suivis plus ou moins par leur noblesse, mais ça n'engage pas le peuple de France. Tandis que Jeanne d'Arc l'a bien senti, l'a bien vécu, c'est le peuple d'en France qui a été impliqué dans ce conflit, la grande pitié, la pitié du royaume de France. Et elle a agi justement pour soulager cette pitié qui affectait les gens, les simples gens.
Alors tout cela n'est évidemment pas sans conséquence, car dès lors que l'on peut faire la guerre au nom d'une nation, eh bien ça signifie qu'il y a un nouvel acteur qui rentre dans le jeu. C'est le peuple, le sentiment populaire, j'allais dire presque avec un anachronisme, l'opinion publique.
Absolument, il y a de ça. Et donc les contemporains, et Jeanne d'Arc elle-même le savait, elle a joué sur l'opinion publique. Et donc, elle ne parlait pas énormément, mais elle écrivait, etc. Et ses paroles, ses propos, ses lettres montrent bien qu'elle était sensible au fait qu'il fallait que ce message soit répercuté à l'opinion publique, et notamment à l'opinion publique urbaine, parce que un certain nombre de villes avaient rallié le camp anglo-français, si vous voulez, le camp de l'union des deux couronnes, et il s'agissait de modifier cette opinion publique par un ensemble d'objurgations, de semonces, et en même temps, disons, de vigueur, parce qu'elle était assez vigoureuse. Et il fallait quand même que les villes se rallient à la cause de Charles VII, à la cause du dauphin, parce que le dauphin avait pour lui la légitimité.
Oui, alors le mot est prononcé, légitimité, quel bouleversement, car si je ne me trompe pas, la légitimité, et bien sûr ça se perpétue dans cette époque, la légitimité d'un pouvoir politique vient de Dieu, mais ici... la légitimité provient aussi de l'assentiment du peuple lié à ce souverain.
Absolument, tout à fait. Alors, donc, elle essaie de jouer sur cette corde-là, la légitimité. Et donc, c'est pour ça que je crois qu'elle a réussi à convaincre Charles VII, qui s'interrogeait. Il s'interrogeait, c'est un personnage un petit peu étrange que j'ai essayé de cerner ailleurs, mais il était quand même, en 1429, lorsque Jeanne d'Arc apparaît, il était quand même angoissé. Il se demandait ce que Dieu voulait de lui. Pourquoi tant d'échecs ? Après années, etc., il essayait de montrer des combinaisons diplomatiques, militaires, etc., et rien n'aboutissait. Qu'est-ce que ça signifie ? Et donc Jeanne d'Arc a été le trouver à Chinon, dans des conditions qui sont un petit peu mystérieuses, parce qu'il n'y avait pas de journaliste pour nous raconter aussitôt la rencontre. Elle a convaincu Charles VII que d'abord, il était le vrai fils de son père, alors que le soupçon de bâtardise courait pas mal. Hein. Donc tu es le vrai fils de son père, de ton père Charles VII. Je pense même qu'elle le tutoyait comme les prophètes ou les prophétesses ont droit de tutoyer même les rois. Et deuxièmement, quelques années auparavant, Charles VII avait eu la malencontreuse idée d'autoriser le meurtre de son cousin, de Jean sans peur, duc de Bourgogne. Et donc Charles VII pouvait s'interroger, et je crois qu'il s'est interrogé longuement, mais après tout, c'est peut-être parce que j'ai accepté ce meurtre, le meurtre de Montrault, le 10 septembre 1419, que Dieu m'a puni. Et donc Jeanne d'Arc a réussi à le convaincre, non, Dieu t'a pardonné cet assassinat. Tu as fait une bêtise, tu as fait une faute, etc. Mais tu as souffert, tu as payé, et maintenant Dieu est de ton côté. Et Jeanne d'Arc se bat, non pas pour la France directement, mais se bat au nom de Dieu. Dieu, c'est le premier personnage de toute cette histoire. Et Charles VII est le lieutenant de Dieu. Donc c'est une théologie politique qui n'est pas entièrement nouvelle, mais sur laquelle elle met l'accent.
Oui, en quelque sorte, elle lui enlève tous ses doutes, elle le requinque, elle lui explique qu'il a une légitimité et donc des devoirs à l'égard de sa fonction.
Absolument. Et donc, comment est-ce qu'elle a réussi à le convaincre, donc, parce que c'est une petite jeune fille de 17 ans, hein, qui venait de sa Lorraine, d'un nom improbable, Dormi, etc., aux extrémités du royaume. Donc, elle avait une parole brève, mais le dialogue passé d'une façon. Et je crois que Charles VII était à la fois, disons, cynique, et en même temps, c'est un chrétien. Et donc, il imagine très bien, dans sa perspective, que Dieu intervienne dans l'histoire des hommes, et notamment dans le devenir des nations et des royaumes. Et donc, dès l'époque même, il y a eu, en plus de cette force de conviction, des bruits qui ont circulé. Un premier bruit, au moment de l'entrevue, Charles VII s'est dissimulé au sein de ses courtisans. On lui a présenté quelqu'un d'autre, et Jeanne d'Arc, mais c'est pas toi. Elle a réussi à repérer Charles VII. Un signe extraordinaire. Et donc, c'est l'époque même. Jeanne d'Arc le dit. Jeanne d'Arc, elle dit qu'elle l'a repéré par une sorte de signe d'inspiration qui lui venait de ses voix. Et puis, un deuxième élément qui est plus mystérieux. J'en parle pas beaucoup là-dedans, mais ça me paraît assez curieux. À savoir que Jeanne d'Arc aurait révélé à Charles VII une prière secrète que celui-ci avait prononcé en novembre 1428, « Si je ne suis pas le vrai roi », il demandait à Dieu, disons, de le protéger, de le sauver, etc. Mais il acceptait d'abandonner la partie. Et donc, Jeanne d'Arc aurait dit, « Tu as dit cela à Loche dans une prière solitaire. » Et donc, en tout cas, le bruit a couru. Et le bruit a couru, nous savons ça comment. Il y a par un certain Guillaume Gouffier, qui était, comme on dit, un favori de Charles VII dans les années 1450, au moment même de la réhabilitation de Jeanne d'Arc. Et là, je laisse aller mon imagination et je pense que Charles VII a appris en juillet 1456 la réhabilitation de Jeanne d'Arc, la fin de son procès de révision, et il aurait dit, c'est un peu inconditionnel, à Gouffier, eh bien voilà pourquoi j'y ai cru. Et j'y ai cru parce qu'elle m'a parlé de cette prière secrète que moi seul pouvais savoir. Je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'il y a quand même quelques doutes, mais j'y crois un peu.
Alors, d'emblée, toutefois, les prophéties de Jeanne d'Arc, son caractère surnaturel, sont questionnées de deux façons d'ailleurs. Certains remettent en cause la véracité de ses voix, et d'autres, on pense notamment plus tard au premier procès de Jeanne d'Arc, utilisent ces mêmes voix, non pas pour dire qu'elles n'ont pas existé, mais pour expliquer qu'en fait, elle est le jouet du démon.
Oui.
Ce qui montre l'imprégnation religieuse
absolument,
très profonde de l'époque, qui permet de relativiser quand même les interprétations par les manigances, l'opération de propagande, car on se produit dans un monde qui ne résonne pas tout à fait comme ça.
Absolument, absolument. Et ces théologiens, ces canonistes de Rouen, c'est pas n'importe qui. Alors on peut évidemment dire des gens, on a beaucoup dit au XIXe siècle, des gens de mauvaise foi, etc. Je dirais peut-être qu'ils sont de parti pris, ils sont aveugles, mais pas nécessairement de mauvaise foi. Et évidemment, ils sont pris dans un système politique, ils n'arrivent pas à imaginer que cette paix de Troyes, parce que cette paix de Troyes de 1420, c'était quand même une possibilité de rétablir la paix. Ils n'arrivaient pas à imaginer que Jeanne d'Arc a l'autorisation du ciel pour rouvrir la guerre. Donc il dit, c'est pas possible. Alors donc, ils interrogent Jeanne d'Arc, et Jeanne d'Arc, disons, elle, avec son courage, avec son esprit de décision, elle ne dissimule pas. Elle aurait pu dire, après tout, c'est, disons, un rêve, etc. Bon, mais non, c'est quelque chose de tangible, de réel, de quotidien. Elle a été guidée, elle est guidée tous les jours par ses voix qui sont son conseil. Alors que les Cochon et les autres, ils sont plusieurs dizaines de théologiens, de canonistes, dans la salle du château de Rouen. Non, c'est pas possible. Ou bien c'est, elle invente tout ça pour se rendre intéressante, on ne voit pas très bien. Ou bien alors elle est un peu déséquilibrée, parce que quand même il y a cet aspect psychiatrique, pour ainsi dire, qui affleure ici ou là dans son histoire dès le XVe siècle. Ou bien, eh bien, elle s'est laissée tromper, laissée séduire par des voix qui ne viennent pas du ciel, mais qui viennent plutôt de l'enfer. Et même les théologiens de la Sorbonne donnent des noms à ces trois diables, à ces trois voix infernales qui ont pris la forme de Marguerite, de Catherine et de Michel. Et Jeanne d'Arc, par complaisance, s'est laissée faire, et par conséquent, il s'agit pour les juges de Rouen de convaincre qu'elle est dans l'erreur. Écoute, on sait mieux les choses que toi à ce sujet. Reconnais que c'est nous qui sommes l'Église, Iquetnin, reconnais que en tant que l'Église, nous avons le droit, le devoir de t'éclairer.
Position strictement catholique face à une Jeanne d'Arc qui serait presque protestante avec un accès direct à Dieu.
Une âme sanctam, parce qu'il y a dans le credo, elle connaissait le credo, elle le dit, elle connaissait le credo. Notre Père, le Jésus, salut Marie et le credo. Et donc elle connaissait ce passage du credo, une âme sanctam et apostolicam ecclesiam. Est-ce que tu reconnais une âme sanctam? Et donc si elle ne reconnaît pas, elle est hérétique. Et donc, finalement, c'est au nom d'une âme sanctam, et l'Église sainte, eh bien, elle l'a sous les yeux, ce sont les juges de Rouen, qui ont spécifiquement, à la suite de l'organisation même de la chrétienté, autorité pour la juger.
Alors, dans les débuts, toutefois, même si c'est un personnage qui peut apparaître spontanée, inspirée, elle doit bien bénéficier d'un certain nombre de complicité, de soutien, d'appui pour mener son entreprise. Vous traitez notamment du cas peu connu de Yolande d'Aragon, pour expliquer que finalement, ce ne serait pas le cas.
En tout cas, c'est mon idée.
Alors, parlons de Yolande d'Aragon, puisqu'après tout, Baudricourt et autres...
Je pense que c'est une histoire un petit peu complexe. Je crois qu'elle a été pour Jeanne d'Arc...
Non, mais il faut déjà rappeler qui c'est.
Alors, Yolande d'Aragon, c'est la reine titulaire de Sicile. Bon, elle revendiquait ce royaume. On l'appelle la reine de Sicile. Et en même temps, elle est duchesse d'Anjou. Et en même temps, elle est la belle-mère de Charles VII. Alors, l'idée se dit, mais Jeanne d'Arc a été mise sur orbite, pour ainsi dire, par Yolande d'Aragon, qui est intervenue auprès de Charles VII. Vous devriez vous servir de cette petite pucelle, etc. etc. Et donc, quand on regarde les parcours parallèles de Yolande et de Jeanne d'Arc, on s'aperçoit qu'il y a une rencontre, incontestablement, mais que ce n'est pas fondamental, et que assez rapidement, Yolande s'est résignée au triste sort de Jeanne d'Arc, et bon, l'a laissée place, pour ainsi dire, tomber. Mais simplement, le cas de Yolande est intéressant dans la mesure où cela signifie qu'à l'époque même, ça c'est vrai, on s'est posé la question auprès des adversaires de Jeanne d'Arc, si elle n'avait pas été manipulée, si on n'avait pas chargé, de cette mission, endoctrinée, pour ainsi dire, jouant un rôle. Bon, et là, je crois que c'est difficile à accepter. Il y a un mystère Jeanne d'Arc, à mon avis, parce qu'on a l'impression, entre sa mission et elle, eh bien...
On ne trouve pas de traces.
On ne trouve pas de traces d'hommes. Alors, on a pensé à l'époque même à Robert de Baudricourt, oui. Mais je n'arrive pas à penser que Robert de Baudricourt avait ce talent. Non, je ne crois pas. Du reste, il a été, semble-t-il, autant qu'on puisse le comprendre, le capitaine de Vaucouleurs, il a été assez réticent. Et donc, il a été interloqué par cette fille. Et finalement, il l'a laissé partir sous bonne escorte.
Alors, dans cette fresque, dans cette épopée, évidemment, l'effet militaire compte beaucoup, puisque notamment le premier fait qui donne du crédit à ce qu'elle annonce, c'est la levée du siège d'Orléans. Mais on sent, et vous développez cet aspect heureusement dans le livre, qu'il y a toute une réflexion. On est dans une guerre qui, vous l'avez dit, a duré 100 années. Le peuple est épuisé, les campagnes sont ravagées, la guerre, même à l'époque, commence à prendre quand même une petite tournure de guerre totale, ne fût-ce par sa durée. Comment cette société très chrétienne gère-t-elle ce conflit sans fin ? Et cette réactivation de la guerre, parce qu'au fond, Jeanne d'Arc, elle fait gagner la France, mais elle relance le conflit.
Oui, en tout cas, elle a été vue comme relançant le conflit. Non pas le continuement, mais en un sens, le relançant. D'où du reste sa lettre de défi au roi d'Angleterre. Une lettre de défi, ça veut dire relancer le conflit, donner de nouvelles bases. Bien, et donc là, effectivement, la question s'est posée à l'époque même, à savoir, est-ce que la guerre de 100 ans est une guerre juste ? Et dans son procès de révision, ou de réhabilitation, la nullité de la condamnation, comme on dit, il y a eu non seulement des témoignages très intéressants sur son enfance, etc., mais également il y a eu des traités de théologiens, de canonistes qui se posent la question, est-ce que Jeanne d'Arc a agi selon les 5 ou 6 critères de la juste guerre ? Et la réponse est oui, à savoir que la fin était bonne, c'était une juste querelle, elle ne travaillait pas pour sa gloire, elle n'a pas montré de la férocité, etc. Donc elle était pour la paix, parce que la juste guerre, elle est faite pour rétablir la paix. Et donc le seul point peut-être qui pouvait un petit peu gêner, c'était le fait que normalement, les gens de guerre sont des hommes. Et donc, c'était une femme. Donc là, il y avait quand même un petit peu de transgression. Mais après tout, on en a des exemples comme ça dans l'Ancien Testament. Donc, il y avait une caution. Et par conséquent, la réponse est oui, on peut estimer que Jeanne d'Arc, elle, personnellement, indépendamment du royaume, etc., menait une juste guerre selon les 5 ou 6 critères habituellement retenus. Alors, les Français... se poser la question, on se disait, mais quand même, dans cette guerre, les Anglais sont quand même les envahisseurs, etc. Pourquoi est-ce que la papauté n'a pas déclaré, mais la guerre du côté français est juste et du côté anglais est injuste? Et bien, effectivement, je pense que la papauté, sur la longue durée, entre le milieu du XIVe et le milieu du XVe, a été sans doute pour les Valois, n'a jamais reconnu pleinement comme roi de France les rois d'Angleterre, mais la papauté n'a pas non plus dit « les Anglais mènent une guerre injuste ». Et pourquoi ? Pourquoi ce silence de la papauté qui a interloqué à l'époque même ? Je pense que finalement, elle considérait que ces guerres, avec tout ce que ça implique de violence, etc., de cruauté, que sais-je, il y avait quelque chose d'injuste, fondamentalement. Et que seules les guerres qu'elle menait elle-même, au nom de Dieu, les croisades en particulier, peuvent être considérées comme pleinement justes. Donc il y a une sorte de réserve de la papauté qui s'est efforcée à bien des reprises de rétablir la paix, mais sans, disons, donner tout à fait raison à un camp contre un autre.
Alors, ce sentiment de désir de paix et cette propension à considérer que la paix est un bien précieux et supérieur à toute guerre, fût-elle juste, je force le trait, hein, bien sûr, s'empare aussi de la société. Il y a des passages quand même assez émouvants et troublants de la part de Français qui décident de pousser dans le sens de traités les plus justes possibles, mais en ayant quand même, étant mûr, allez, osons le mot, des sentiments pacifistes.
Oui.
Et avec des arguments qui sont qu'on pourrait entendre aujourd'hui, c'est-à-dire la dénonciation des massacres, le fait que toute guerre finalement mène à des inconvénients supérieurs aux causes qui l'ont déclenchée au départ.
Oui, et en particulier, disons qu'il y a un personnage auquel je me suis pas mal intéressé, Philippe de Mézières, qui, à la fin du XIVe siècle, c'est un peu un illuminé, etc., mais c'est un chevalier picard, qui était un homme de dévotion, qui était un écrivain, qui est un conseiller du prince, etc. Il se pose la question, mais après tout, nous ne savons pas exactement quel est le jugement de Dieu, quel jugement Dieu porte sur ce conflit. Et donc, il renvoie les deux adversaires dos à dos, mais non pas en soi, parce que ce n'est pas un pacifiste. Mais il leur dit qu'une fois vos forces réunies, vous pourriez vous utiliser, disons, vos armées pour reconquérir Jérusalem. Donc, ce n'est pas un pacifiste. Mais il considère qu'il y a une guerre qui est franchement juste, c'est la croisade.
Oui, la guerre entre chrétiens n'est jamais juste.
Voilà, la guerre entre chrétiens, c'est quand même pas ce qu'il faut.
Alors, dans le même ordre d'idée, ce qui est frappant, c'est que Jeanne d'Arc elle-même, qui réactive cette guerre contre les Anglais, se sent obligée, elle aussi, en tout cas à travers ses prophéties, d'annoncer qu'après, une fois les Anglais boutés hors de France, il y aura la paix, ce qui est un des critères de la guerre juste, il faut que la guerre mène à la paix, mais qu'ensuite, aussitôt, elle emmènera le roi de France jusqu'à Jérusalem.
En tout cas, c'est le mythe qui a couru à l'époque même, et je pense que Jeanne d'Arc était sensible à cela. On n'a pas tellement de preuves, mais enfin, disons que ça s'inscrit bien dans le personnage.
À tel point que, au-delà, si l'on est croyant, on peut bien évidemment considérer que les voix qu'elle entend sont réelles. Si on ne l'est pas, ne peut-on pas simplement considérer que Jeanne d'Arc condense la sensibilité de l'époque.
Oui, je crois.
Non
aussi.
Pas avec cynisme, ce qui serait aller trop loin, non. Mais que c'est une sorte de point nodal de l'ensemble des aspirations des sensibilités du moment.
Et c'est pour ça que ça a marché. C'est parce qu'il y avait du répondant. Il y avait à la fois son message individuel, personnel, et puis d'autre part, bien sûr, mais une société qui, dans ses différentes composantes, était capable de comprendre ce message.
Et alors en face, les Anglais.
Ah, les
comment,
Anglais, là-dessus.
Comment la voit-ils à ce moment-là ?
Je pense que pendant longtemps, ils ont vu quand même comme une sorcière. Disons que les juges de Rouen, non. Les juges de Rouen ne disent pas catégoriquement « Jeanne d'Arc est une sorcière ». Donc Jeanne d'Arc, plutôt, a été le jouet de forces maléfiques qu'elle a écouté avec trop de complaisance. Mais pour Jeanne d'Arc, pour les Anglais, de façon un petit peu plate et vulgaire, etc., non, c'est pas possible que nous ayons été battus si régulièrement par quelqu'un qui n'avait pas un appui, disons, maléfique, surnaturel, mais au sens mauvais du terme. Et c'est pour ça que la thèse de Jeanne d'Arc comme sorcière, elle a été exprimée, du reste, par Bedford, etc. Personne de guerre qu'on soupçonne d'être sorcière et conduisant les os du dos, qu'on soupçonne d'être sorcière. Voyez-vous, donc, c'est disons l'expression qui est employée pour lever un impôt auprès des Normands en 1430, de façon à la récupérer auprès de celui qui l'avait fait prisonnier, c'est-à-dire Jean de Luxembourg. Personne de guerre qu'on dit sorcière. Donc voilà. Et donc je pense que cette idée-là, elle a traversé un peu les siècles et elle apparaît encore dans Shakespeare. Je cite, disons, un courtisan, bien deux gentilshommes, l'un français, l'autre anglais, dans les années, dans le 16e siècle, en plein 16e siècle, qui déclare, l'anglais déclare, vous n'avez pu nous vaincre, dit-il au gentilhomme français, que parce que vous avez eu l'aide d'une sorcière.
Que l'on soit partisan ou adversaire de Jeanne d'Arc, on ne quitte pas le domaine du surnaturel, donc.
Voilà.
Et comment expliquer sa postérité ? Car après tout, on vient de dire et d'admettre que Jeanne d'Arc était une sorte de condensée de l'esprit de son temps.
Oui.
Elle continue à occuper une place centrale dans l'imaginaire français, et même au-delà d'ailleurs, où elle reste quand même un personnage littéraire aussi, une sorte de mythe partagé qui inspire le cinéma, et pas seulement français, la littérature, et pas seulement française. Comment expliquer cette postérité ?
Ah bien, écoutez, je crois que le souvenir de Jeanne d'Arc n'a jamais complètement disparu. Évidemment, au XIXe siècle, au XXe siècle, ce souvenir s'est considérablement accru, mais il n'a jamais été évacué. Et de façon, disons, un petit peu polémique, c'est pas uniforme. Donc il y a le point de vue, disons, le point de vue de Shakespeare, hein, mais quelqu'un comme Machiavel en parle. Machiavel en parle et dit, mais c'est une ruse des gens de guerre, des chefs de guerre, qui n'arrivaient pas comment s'en sortir, et qui ont produit cette fille de façon à redonner du courage à leurs troupes. Bon, même Machiavel. Et cette thèse de Jeanne d'Arc manipulée et utilisée pour redonner du courage aux Français, c'est une thèse qui est très répandue au siècle des Lumières. Montesquieu, Voltaire, etc., le disent à peu près cela. En tout cas, Jeanne d'Arc n'a pas été oubliée, nullement oubliée. Du reste, si Jeanne d'Arc, si Voltaire a écrit La Pucelle, c'est pas pour rien. Bon, parce qu'il savait qu'elle était connue. Et puis, à partir du début du XVIIe siècle, on a commencé à s'intéresser à Jeanne d'Arc comme personnage historique. On a regardé les sources de façon très attentive. Il y a un théologien de la Sorbonne qui s'appelle Edmond Richer qui a écrit un travail qui est resté longtemps manuscrit, mais enfin qui est très très complet, qu'on a conservé à la Bibliothèque nationale de France, où toutes les sources sont plus ou moins passées en revue de façon très attentive. Et puis au XVIIIe siècle, il y a un certain Langlais du Fresnoy qui reprend tout le dossier et qui propose deux ou trois possibilités d'explication. À la veille de la Révolution, il y a Clément de Laverdier, qui était un éminent juriste, qui se met à regarder les procès. Et si bien que le grand historien de Jeanne d'Arc au XIXe siècle, celui qui a vraiment exhumé de façon tout à fait remarquable les documents, qui les a édités de façon tout à fait extraordinaire, à un rythme très très soutenu, Jules Quicherat, est l'héritier du travail de ses prédécesseurs. C'est à la fois Quicherat est à la fois un point d'aboutissement et un point de départ. Et depuis Quicherat, au milieu du XIXe siècle, on n'a pas découvert tellement de choses. Voilà. Mais enfin, on a ici ou là des bribes. Et parmi les documents les plus importants qui ont été découverts depuis 1841-1849, puisque c'est l'époque de la publication en 5 volumes des procès de Jeanne d'Arc par Quichera, on a surtout découvert, conservé en Autriche, une correspondance des marchands vénitiens installés à Bruges et installés à Avignon. Et les marchands vénitiens, ils étaient neutres, pour ainsi dire, qui parlent de Jeanne d'Arc de façon tout à fait sympathique et extraordinaire.
Oui, vous citez de nombreux extraits de marchands
absolument,
vénitiens.
Absolument. Ça fait partie du mythe, mais c'est un mythe absolument contemporain.
Oui, ce qui est frappant, de fait, c'est la fraîcheur avec laquelle ils font état à leur famille ou à leurs contacts restés en Vénitie, des événements français.
Ils vibrent, absolument, absolument. Alors qu'ils sont en plein territoire. Avignon, bon, c'était la papauté, bon, c'est un pays neutre. Mais enfin, à Bruges, ils sont en plein territoire bourguignon. Hein. Et donc on pourrait s'attendre à ce qu'ils soutiennent le point de vue bourguignon. Eh bien non, ils sont surpris, étonnés, admiratifs pour l'action de la Pucelle, à laquelle il souhaite le plus de réussite possible, et il déplore la mort de la Pucelle, et il déclare qu'à cette occasion, Charles VII est furieux et va se venger sur les femmes d'Angleterre. Bon, nous savons ce qu'il en est.
Comment expliquer la place qu'elle a, au-delà de sa persistance dans l'imaginaire collectif, dans l'historiographie de la France républicaine, mais patriotique ? C'est une des rares figures, quand même, foncièrement chrétienne, oui. Intégrée à cette grande geste. Est-ce que c'est conjoncturel, les querelles avec les Allemands ? Est-ce que c'est quelque chose de plus profond ? Est-ce que c'est le fait qu'elle ait finalement joué un rôle dans la naissance d'une vision de la France comme nation ?
Il y a tout cela, effectivement. Mais donc, il faut quand même citer un nom. Hein. Le nom de Quichera, mais le nom de Michelet. Il y a Michelet, n'est-ce pas ? Il y a Michelet, la sainte de la patrie. Donc Michelet, qui connaissait bien Quichera, qui avait de la sympathie, d'admiration pour Quichera, sa force de raisonnement, sa force de travail, etc., qui ne l'a pas utilisé directement parce que ses pages sur Jeanne d'Arc sont antérieures à la publication de Quichera, mais Michelet, a senti l'importance de ce personnage, et il l'inscrit à la fois comme une figure nationale et comme une figure pleinement médiévale. En ce sens que pour Michelet, il y a la passion et la rédemption. Il faut souffrir pour racheter. Et Jeanne d'Arc a été celle-là. Donc il y a un rapprochement entre la figure de Michelet et, par exemple, l'imitation de Jésus-Christ. En un sens, pour Michelet, Jeanne d'Arc a imité Jésus-Christ. Et donc là, il retrouve des éléments du XVe siècle, à savoir qu'on a comparé dès l'époque même le procès de Jeanne d'Arc au procès de Jésus. Donc ce n'est pas de l'anachronisme. Et je crois que le génie de Michelet, c'est d'avoir senti que c'était l'une des grandes croyances de la religion du Moyen-Âge finissant. Et donc, Jeanne d'Arc aurait été la dernière expression sublime de cette croyance, passion, rédemption, et appliquée justement à la France et au sentiment national. Donc, évidemment, Michelet, d'abord une superbe langue, etc., donc dans le détail, c'est tout à fait fascinant, a cautionné, pour ainsi dire, une vision républicaine.
D'une sorte de dolorisme.
Absolument, une vision républicaine de Jeanne d'Arc, même si Michelet, évidemment, était un petit peu embarrassé face aux voix. Non, voilà, bon, il y a tout cela. Et puis, dans la suite de Michelet, eh bien, il y a eu, disons, effectivement, une récupération. Est-ce qu'on peut employer le terme de récupération ? Il n'est pas très beau, mais disons, une utilisation de Jeanne d'Arc pour conforter, du point de vue de la gauche, le sentiment national, en tout cas jusqu'en 1914, bon, avec peut-être un petit peu de nuance. À partir, disons, d'un certain moment, la gauche est quand même plus ou moins éloignée de la figure de Jeanne d'Arc, qui est devenue davantage une figure catholique.
Oui. et dont s'emparait à la même époque, du coup, l'Action française, j'imagine. Voilà, ce qui complique les choses.
Une figure catholique, et donc, dans la logique, cette figure... Johanna Nostraes, a dit le pape, n'est-ce pas, Léon XIII. Donc, s'il a dit ça, Jeanne d'Arc est nôtre, ça signifie que ce n'était pas évident. Il fallait qu'il le dise, hein, parce qu'après tout, Jeanne d'Arc avait été condamnée par l'Église, et elle avait trahi le roi très chrétien. Bon, abandonne-moi. Condamnée par l'Église, et elle avait été abandonnée par le roi très chrétien. Donc il fallait essayer de récupérer cela. Et pendant longtemps, il y a aussi un élément très important, à savoir que dans la théologie traditionnelle, l'échec, c'est jamais commode à comprendre. Comment est-ce que Jeanne d'Arc, prophétesse, etc., n'a pas été jusqu'au bout de ses prophéties? Alors, on s'en est tiré par... un subterfuge, si vous voulez, une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui apparaît dès l'époque, en particulier chez Dunoy, qui a témoigné lors du procès en révision, à savoir que Jeanne d'Arc avait une mission bien déterminée, la levée du siège d'Orléans et le sacre du roi à Reims. Et puis ça devait s'arrêter là. Après ça, elle devait rentrer dans le rang, se marier, s'occuper de ses moutons, etc. etc. Et donc, on comprend dans cette perspective, si vous voulez, qu'elle est échouée par la suite. Ça vient de ce qu'elle avait outrepassé le rôle que la Providence lui accordait. Et cette vision, qui est de la vision traditionnelle de la royauté à travers les siècles de l'Ancien Régime, c'est encore la vision de Chateaubriand. C'est encore la vision de Victor Hugo dans son poème sur le sacre de Charles X. Et donc là, le changement intervient justement à partir de Quichera, à partir du moment où on a mieux compris, mieux mis en compte, mieux pris en compte toutes les sources concernant cette histoire. Mais encore, un grand historien de Charles VII du XIXe siècle, Dufresne de Beaucourt, il n'est pas loin de... C'est un royaliste, légitimiste, il n'est pas loin de partager cette idée. Après tout... l'échec de Jeanne d'Arc, qu'il admet du reste, mais l'échec de Jeanne d'Arc s'explique parce que la Providence ne lui avait assigné que deux missions et non pas de poursuivre la fin de la guerre de Cent Ans, l'expulsion des Anglais. Non, c'est pour ça qu'elle a échoué. Voilà. Donc, en tout cas, bon, c'est comme ça que les choses se voient. Les choses ont été vues à travers les siècles de l'Ancien Régime et jusqu'au milieu du XIXe.
Donc on sent que les sources sont extrêmement riches. Extrêmement riches, les sources sur Jeanne d'Arc. C'est aussi quelque chose de...
compte tenu surtout de la faible durée de sa vie publique. Et donc, il y a des sources documentaires, si vous voulez, des contes, des trucs, etc. Bon. Et puis, surtout, les sources sont intéressantes parce qu'elles sont contrastées. Jeanne d'Arc a été en débat. Hein. Et donc, par contre, on a, pour ainsi dire, les deux... Et puis, chose tout à fait exceptionnelle, il y a quand même les deux procès. Le procès de condamnation où elle prend la parole, où elle parle d'elle-même, y compris de son enfance. Donc on a la voix de Jeanne d'Arc, plus ou moins. Et puis le procès en révision, où il y a des témoignages tout à fait de première main, et notamment sur son enfance, pour connaître, disons, l'enfance d'une petite paysanne du XVe siècle, on n'a pas d'autre exemple aussi frappant, même si c'est un peu convenu, etc., que l'exemple de Jeanne d'Arc à travers, disons, les dizaines de témoins qui ont été interrogés en 1455-56 du côté de Domremy, de Toul, etc.
Écoutez, beaucoup de sources, beaucoup d'interprétations, et donc une matière forcément foisonnante, j'allais dire inépuisable. D'autant qu'à partir de cette même matière, chacun, je ne vais pas dire, peut élaborer sa propre Jeanne d'Arc, mais construire son propre rapport à Jeanne d'Arc, en revanche.
Jeanne d'Arc, figure universelle, Jeanne d'Arc qui légitime toutes sortes d'interprétations en France et hors de France.
Bien, écoutez, pour stimuler ces interprétations tout en ayant pour matériaux des faits historiques bien établis, car il ne faut pas non plus se mettre à délirer sur Jeanne d'Arc, j'invite nos auditeurs à se plonger dans votre ouvrage, Jeanne d'Arc et son époque, Essai sur le XVe siècle français, par Philippe Contamine de l'Institut, aux éditions du CERF. Merci beaucoup, monsieur.
Merci. Thank you.